partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à tous, Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue et ravi de vous retrouver pendant 90 minutes sur IDFM 98 ou 98.fr dans votre émission L'économie en direct. Ce matin, vendredi 24 juin, au sommaire, vie parlementaire, pathologie cardiovasculaire, intermédiation automobile. Et pour développer ces sujets du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Mariem Bouslam. Bonjour Mariem.
Bonjour Jacqueline.
Merci de nous accompagner dans cette émission.
Merci à vous pour l'invitation.
Mariem, vous êtes l'attachée parlementaire d'Aurélien Taché, députée de la 10e circonscription du Val d'Oise, réélue depuis dimanche. Et vous-même, en 2014, vous étiez conseillère municipale déléguée à la qualité de vie et l'habitat. Vous avez souhaité nous apporter vos éclairages sur plusieurs sujets et bien sûr, nous avons hâte d'en savoir plus.
Merci.
À vos côtés, Dustine Boutboul. Bonjour Dustine.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence à notre antenne. Vous êtes le responsable de produits cardiologie interventionnelle chez GE Healthcare, l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements d'imagerie médicale, qui aujourd'hui innove avec une nouvelle plateforme d'imagerie, une première mondiale que nous allons découvrir avec vous. Et sur le fil, à vos côtés, Yoni Dayan. Bonjour Yoni.
Bonjour Jacqueline.
Vous avez eu des soucis sur la route?
C'était un peu embouteillé, on va dire.
C'était compliqué. Donc, bonjour Yoni. Vous êtes le fondateur et PDG de Simplicicar, spécialisé dans l'intermédiation automobile, une activité en plein essor. Vous nous expliquerez ce concept unique de vente de voitures et motos d'occasion.
Avec plaisir.
Bienvenue et merci de nous accompagner en direct dans l'économie en direct. À côté de moi, j'ai Caroline Nouveau qui a accompagné Dustine Boutboul. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Donc merci d'être avec nous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment grâce à son podcast sur idfm98.fr. Et sans plus attendre, je donne la parole à Mariem Bouslam. Donc Mariem, je rappelle, vous êtes attachée parlementaire d'Aurélien Taché, députée de la 10e circonscription du Val-d'Oise, réélue donc depuis dimanche, et vous-même étiez en 2014 conseillère municipale dans la commune de Courdimanche, déléguée à la qualité de vie et l'habitat, et vous êtes présidente d'une association dont vous allez nous parler tout à l'heure. Ma première question, Mariem Bouslam, donc... Il se trouve que votre député a été réélu, et tant mieux pour lui.
Oui, félicitations à lui.
Sans doute tant mieux pour vous. Ma question, c'est d'abord le rôle d'une attachée parlementaire.
Alors, le rôle d'une attachée parlementaire ou d'un attaché parlementaire, il est multiple. Il y a deux attachés parlementaires. Il y en a un qui est à Paris et un qui est en circonscription. Celui qui est à Paris gère majoritairement les affaires, parlementaires, la rédaction des amendements, le lien avec les groupes parlementaires, avec les ministres et les commissions pour élaborer et co-construire les lois. Et puis, il y a aussi la partie relations presse, relations communication. Donc, c'est majoritairement ceux qui sont basés à l'Assemblée nationale qui s'en occupent. L'attachée parlementaire que je suis pendant 3 ans maintenant, en circonscription, a été, je dirais, la petite main du territoire. C'est-à-dire qu'on s'occupe majoritairement des relations avec les corps intermédiaires. les enseignants, les syndicats, les associations, les structures commerciales, économiques, les élus, les collectivités territoriales, et puis aussi tous les services déconcentrés de l'État, que ce soit les organismes sociaux, donc Pôle emploi, la CPM, mais aussi
toutes les structures existantes,
la préfecture, les services de police. Les services médicaux, alors bien évidemment, on a eu beaucoup à faire pendant la crise Covid, à faire de liens, à capter la température, de savoir comment l'hôpital de Pontoise, bien évidemment, était sous tension ou sur tension pour vraiment réadapter, réajuster tout ce qui se décidait au sein de l'hémicycle. Et donc, du coup, c'est aussi, je dirais, beaucoup de relationnel.
Oui.
Beaucoup, je dirais, d'écoute.
De présence.
Et de présence physique sur le terrain, bien évidemment. Une collaboration,
donc, tout autant,
une circonscription, c'est une proximité évidente. Tandis que quand on est à Paris, c'est une technicité juridique, c'est une technicité institutionnelle. Et c'est pas le même boulot, quand bien même on a le même statut, on a la même fonction. Mais en tout cas, en termes de tâches et de postes, c'est pas la même chose.
Donc cette proximité dont vous nous parlez, elle est aussi bien, elle vous est aussi bien déléguée que votre député.
Alors ça dépend des affinités avec notre député employeur, parce qu'il faut savoir qu'un attaché parlementaire n'est pas contractualisé par l'Assemblée
nationale. Oui, vous n'êtes pas
élu. On est contractualisé par le député qui est notre chef, qui est notre employeur, avec qui on négocie nos contrats, les modalités, puis nos rémunérations. Et donc du coup, à partir du moment où on a cette légitimité contractuelle, le député nous donne une légitimité institutionnelle pour le représenter, soit dans les réunions de travail avec la préfecture, avec les différentes structures, ou soit bien évidemment on peut aussi le représenter d'un point de vue institutionnel à des cérémonies, notamment les cérémonies commémoratives, on peut déposer des gerbes, mais ça encore une fois c'est à la discrétion du député ou de la députée et des rapports de
que vous entretenez
qu'on entretient avec son élu de tutelle ou de référence. Voilà.
Et ma question aussi, c'est si Aurélien Taché n'avait pas été réélu, quel aurait été votre sort, Mariam Bouslam ?
C'est vrai que quand on est collaborateur d'élu, mais c'est pareil, quand on est collaborateur dans une mairie ou dans un conseil départemental, on est toujours l'épée de Damoclès. Alors on est tranquille pendant 5 ans ou 5-6 ans du mandat électif. Et puis une fois que le mandat électif fait partie, qu'on est en plus l'élu perd, on se retrouve assez en difficulté. J'ai la chance, et je le dis encore une fois, l'Assemblée nationale m'a permis pendant ce mandat d'avoir fait deux formations prestigieuses, c'est-à-dire j'ai fait un master Sciences Po à la Sorbonne et j'ai préparé une formation accélérée à l'ENA.
Oui.
Donc du coup ça a parfait ma construction universitaire et mon parcours. Donc je me serais peut-être orientée vers un métier de responsable d'affaires publiques ou d'affaires institutionnelles dans le privé, d'une collectivité, ou pourquoi pas éventuellement aller m'orienter vers un cabinet ministériel, parce que c'est aussi quand on est attaché parlementaire, on a deux voies de sortie. Soit on devient nous-mêmes députés, soit quand le député ne veut pas être candidat, ou on trouve une autre circonscription, etc. Ou soit on évolue en termes de grade, on n'est plus dans le législatif, on est conseiller dans l'exécutif, et donc du coup on intègre des postes de conseiller dans les ministères, ou à Matignon, ou à l'Élysée. En tout cas, voilà, c'est peut-être ces deux voies que j'aurais voulu choisir.
Enfin, en plus, vous êtes très jeune, donc vous avez encore tout le temps de choisir.
Oui,
surtout avec ce parcours académique brillant qui passe par Sciences Po et l'ENA. Donc,
merci à l'Assemblée nationale, et puis merci à Aurélien Taché qui m'a permis, parce qu'il m'a fait confiance en m'embauchant, de me permettre de faire ces deux formations.
Ces deux formations.
Voilà, c'est une reconnaissance que je veux lui témoigner ce soir.
Très bien, merci. Donc, vous vouliez parler aussi, parce que vous avez une casquette assez importante, c'est que vous êtes présidente d'une association Tous Ensemble, dont vous avez déposé le nom bien avant que...
voilà. Oui, ils m'ont piqué.
Vous auriez dû la déposer. Vous avez fait un tour de France fabuleux. Expliquez-nous, Mariam.
Moi, j'ai été élue depuis 2014, vous l'avez dit, sur la commune de Courdimanche, dans la circonscription dans laquelle le député Taché est élu. Et c'est pour ça qu'il m'a fait confiance, parce que j'avais cet ancrage territorial et cette connaissance du territoire. J'ai du coup assez tôt, dans mon engagement citoyen et au parcours militante, un problème avec l'abstention. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un cheval de bataille. Je suis issue d'une famille franco-marocaine. On a aussi une histoire familiale qui fait que dans certains pays, notamment au Maghreb, en Afrique, on ne vote pas. Ou on vote, mais c'est un vote qui ne compte pas forcément. Et pour moi, en France, on a la possibilité, on a ce pouvoir absolu de choisir tous les 5 ans, tous les 6 ans, notre représentant dans les différentes assemblées délibérantes pour décider à notre place, pour nos enfants, pour nos aînés. Donc, et je pense que c'est frustrant de se dire que les citoyens préfèrent aller à la piscine plutôt qu'aller blinder les bureaux de vote et surcharger les urnes d'enveloppes, parce que c'est mon rêve absolu. À partir de ce constat-là, je savais que la présidentielle allait avoir un peu d'intérêt. De surcroît, la crise ukrainienne nous a un petit peu, amputé de débats présidentiels comme on avait l'habitude d'avoir. Donc, en termes de qualité démocratique, on a perdu. Ça, c'est un fait. Mais donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, du coup, symboliquement, ma fille me dit, qui a 3 ans, me serre la main, me dit tous ensemble, et je me suis dit, symboliquement, je vais faire quelque chose de ce mot que ma fille m'a légué, tous ensemble, en me serrant la main. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, du coup, j'ai créé une structure associative en janvier, bien avant le slogan présidentiel. Et donc, du coup, j'ai fait un tour de France avec mes réseaux que je connaissais, avec certains acteurs locaux, mais acteurs aussi associatifs. Et donc, du coup, je suis allée dans les quartiers nord de Marseille, à Toulouse, à Villeurbanne, à Roubaix. J'ai fait 5 villes en Ile-de-France, Carrières-sous-Poissy, Cergy, Évry-Courcouronnes. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de villes pour sensibiliser et inscrire sur place, parce que nous, du coup, on avait une vraie caravane avec un agent administratif, et je remercie toutes les villes d'avoir joué le jeu et d'avoir mis à disposition et les barnums et le côté logistique, mais aussi le côté juridique, parce que sans la présence d'un officier d'état civil assermenté, un agent de la mairie, cela n'aurait pas été possible. Oui. Je remercie infiniment les mairies d'avoir joué le jeu démocratique de ce partenariat hautement important, parce que symboliquement, c'est pas loin de 200 inscriptions sur le territoire national. Alors c'est faible compte tenu des territoires que j'ai couverts, mais je me dis
c'est autant d'abstentions qu'il y aurait eu si vous n'aviez pas fait.
Exactement, ça aurait été 200 citoyens qui n'auraient pas été inscrits, qui n'auraient pas eu le réflexe, les différents dimanches qu'on a connus, de se déplacer dans les bureaux de vote. Et je me dis, c'est 200 citoyens de gagner. Absolument. En termes d'électeurs et en termes de participation électorale. Donc voilà, donc c'est une grande fierté. Et on continue, parce que dans ce Tour de France, on a repéré quelques carences, des carences démocratiques, carences institutionnelles, carences territoriales. Et donc, avec tous ensemble, on va mener 3 grands projets. Dans l'agglomération lyonnaise, les Lyonnais, les Villeurbanais, les Vénitieux, enfin tous Bron, Villeurbanne, enfin voilà, le quartier de la Duchère à Lyon, on est citoyens limitrophes de la capitale gastronomie française, mais on n'a pas accès à l'alimentation, on n'a pas accès à la santé. Donc on va mettre en place des grosses assises de l'alimentation et de la santé sur ces quartiers, pour dire que certes, on vient des QPV, mais on peut avoir accès à l'alimentation saine, équilibrée. Et via ce projet-là, on va pouvoir amener les citoyens au débat démocratique, à la citoyenneté, aux enjeux sociaux, aux enjeux aussi démocratiques. Sur Toulouse, on va créer une vraie plateforme, de construction identitaire dans les quartiers, construction démocratique. Et puis enfin, sur Marseille, on travaillera sur le rôle des femmes et la place des femmes dans la vie et dans la ville. Et on travaillera sur la lutte contre le décrochage scolaire, parce que c'est aussi une grosse problématique de nos quartiers. Voilà.
Merci beaucoup, Mariem Bouslam. On va pas tout dévoiler tout de suite. Je voudrais que vous nous parliez de l'accueil que vous avez reçu par ces personnes, au-delà de ce que vous avez donc mis en exergue. On fait une petite pause et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite.
sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en tri de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
Cesse de semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arraché. Il y a l'état, les RMI, l'état qu'a t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droite, avec un air particulier. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé, son baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer.
IDFM 98 ou 98.fr, nous venons d'écouter Calogero et Passy face à la mer. C'est l'économie en direct et je suis ravie d'être en compagnie de Mariem Bouslam, attachée parlementaire de Aurélien Taché, mais également présidente de l'association Tous Ensemble. Mariem Bouslam vient de nous expliquer sa volonté de réduire l'abstention, puisque nous avons la chance effectivement en France de pouvoir voter. C'est vrai que cette abstention, nous l'avons retrouvée aux élections municipales, aux élections départementales, et là, pour les élections législatives, 54%, c'est elle la vraie gagnante de ce vote. Donc vous avez fait ce tour de France, Mariem, qui a soulevé d'autres problèmes et vous allez pouvoir, je pense, y répondre. Moi, je voulais vous demander quel a été l'accueil selon les villes des personnes que vous avez rencontrées face à aux questions que vous leur posiez. Vous leur disiez êtes-vous inscrit, allez-vous voter, c'était ça vos questions?
Exactement, c'était des questions assez basiques mais qui ont soulevé pas mal d'autres questions. C'était déjà d'une, est-ce que vous êtes au courant qu'il y ait des votes? Donc bien évidemment ils étaient au courant qu'il y avait une présidentielle. Beaucoup n'avaient pas connaissance qu'il y avait des législatives d'ailleurs, donc c'est assez intéressant comme cheminement. On est bien président mais on ne sait pas qu'il y a l'élection des députés derrière. Et puis je dirais que l'accueil a été complètement disparate compte tenu des territoires. sur le territoire de Marseille complètement. C'est pas que ils étaient complètement désintéressés de la chose publique. C'est-à-dire qu'à Marseille, il faut savoir qu'il y a beaucoup de stigmatisation de cette ville. On en fait vraiment le bouc émissaire de pas mal de problématiques en France. On la pointe du doigt comme étant la ville où gangrènent les trafics de drogue, où les insécurités, les incivilités, puis aussi l'insalubrité.
C'est surtout certains quartiers de Marseille.
Exactement. Ouais. Mais donc du coup, c'est pas la majorité de Marseille. Mmh. Et puis encore une fois, dans les quartiers nord, beaucoup sont pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils subissent au même la mauvaise gestion municipale ou la même mauvaise gestion qui existe depuis des années. Donc, ils en ont un petit peu marre. Donc, à un moment donné, quand le système leur renvoie systématiquement à cette problématique, eh bien, ils le rejettent. Voilà. Donc, ils rejettent ce système-là qui en font des responsables de Marseille, c'est la ville sale, c'est la ville où il y a le trafic de drogue, alors qu'il y a tellement de choses positives qui se passent à Marseille. Et je suis contente de pouvoir avoir l'aide ou l'accompagnement de la préfecture là-dessus pour justement mettre en lumière sur ce qui se fait de bien et ce qui se fait de mieux à Marseille. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place à partir de septembre et je suis contente de pouvoir le faire. Sur Toulouse, on a complètement pareil, c'est-à-dire que c'est une ville formidable que j'ai découvert pendant mon tour de France. Je n'avais jamais mis les pieds à Toulouse. Donc c'est intéressant aussi, parce que quand on arrive dans une ville et qu'on ne la connaît pas, bah forcément on a déjà
tout
à découvrir. Mais on se rend compte que bon, il y a le Capitole, il y a le centre-ville qui est super beau, qui est magnifique, et puis il y a les autres quartiers où il faut prendre un tram, il faut prendre un métro, et donc du coup c'est beaucoup plus loin, et donc c'est plus enclavé. La Rennerie par exemple, donc c'est le quartier du Mirail, où il y a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre identité. On n'est pas Toulousain, on est du Mirail, on est de la Rennerie, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut recréer à la fois avec les habitants un sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens toulousains et toulousaines avant de s'approprier le quartier, parce que je pense que c'est ça qui fera qu'on se considérera et que ces citoyens se considéreront toulousains et toulousaines à part entière, et avoir les mêmes droits, avoir les mêmes compétences, avoir les mêmes prérogatives et bien évidemment avoir les mêmes services publics. Mais quand bien même la mairie de Toulouse a été l'une des premières mairies à mettre en place, et je salue Gaëtan au passage, qui est le maire de quartier de la Rennerie et du quartier du Mirail, qui m'a accueilli chaleureusement, qui m'a bien expliqué les choses. Toulouse a mis en place des mairies de quartier. Et donc du coup, avec des localisations, il y a les maisons de citoyenneté bien implantées dans les quartiers, donc le service public est là. Mais il y a tout à reconstruire. Il y a la confiance, il y a aussi éviter que ça soit toujours les mêmes associations qu'on retrouve, oui. Et essayer d'amener d'autres citoyens
que tout le monde soit concerné,
éloignés de la chose publique dans ces maisons de services publics. Voilà. Il faut que le citoyen se réapproprie l'espace, donc son territoire, mais aussi l'espace des services publics, donc les mairies, les maisons de quartier, toutes les structures que l'État ou que les collectivités territoriales mettent à leur disposition. Et puis sur Lyon, c'est la problématique de l'alimentation, de la santé qui est revenue,
oui.
Et puis aussi la problématique des transports. Je prends l'exemple de Villeurbanne, où on est obligé de traverser le périphérique. Et donc Villeurbanne est collée à Lyon, donc oui. Quand on arrive à la gare de Lyon-Pardieu ou Lyon-Perrache, on n'est pas loin de Villeurbanne. Et puis quand on arrive à Villeurbanne, quand on va dans le quartier Boblanc, on est obligé de passer le périph. Donc on est symboliquement et visuellement dans une autre ville, alors qu'on est déjà dans Villeurbanne. Donc c'est aussi ça qui fait la frustration des habitants de ce quartier-là, en disant qu'on n'est pas villeurbanais, villeurbanaise, et que du coup, il y a la problématique des transports qu'il faut. Moi, les jeunes m'ont dit, on veut bien aller participer à des débats en mairie centrale, mais on est obligé de rester là, dans notre quartier. Donc c'est bien de rester dans les quartiers, de participer à l'action citoyenne dans la maison de quartier de proximité. Mais c'est aussi bien d'aller dans la mairie centrale, là où se décident les choses, là où le conseil municipal siège, là où on peut rencontrer les élus, même si les élus sont mobiles. Mais symboliquement, c'est différent. De mettre les pieds dans une mairie pour les jeunes de quartier, c'est différent. Et beaucoup, pas que à Villeurbanne ou dans ces quartiers-là, beaucoup en France n'ont jamais mis les pieds dans leur mairie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Parce que ne serait-ce que faire symboliquement le pas de rentrer dans ma mairie, c'est déjà je rentre dans l'action démocratique. Oui, déjà je me mets en immersion de ce qu'est la République.
Oui.
À quoi elle correspond.
Voilà. En vous écoutant, Mariam Bouslam, on se dit qu'au fond, vous avez fait, parce que ces constats que vous avez faits, on peut se demander on peut se dire que les communes et les députés ont fait ce même constat sur place. Ou est-ce que vous avez soulevé des loups, comme on dit ?
Non, je pense que j'ai pas été médium ou voyante j'ai pas inventé l'eau chaude ou ni inventé l'eau froide, mais ils ont ce constat. Mais encore une fois, je pense que dans notre pays, on a beaucoup de problématiques et la crise Covid nous a soulevé ce point-là
en disant que
l'immobilisme administratif. Il y a des invités du secteur économique et je pense qu'ils seront d'accord avec moi sur le fait que en France les procédures, l'administration est tellement immobile, c'est tellement compliqué. Parfois ça met tellement du temps et on perd tellement de temps. Mm-hmm. Alors que la crise Covid nous a permis de déconstruire tout ça, d'anticiper, d'être complètement dans une nouvelle forme d'organisation et ça a été possible. Donc pourquoi un cheminement de transport, on est obligé de passer par des commissions, le schéma directeur de transport pour éventuellement faire voter ça en BM, après faire voter ça à l'agglomération, au département, à la région.
Oui, enfin, toutes les strates qui existent.
Pendant ce temps-là, le citoyen, il est toujours dans la problématique.
Oui.
Et la problématique, elle n'avance pas. Elle ne se résout pas.
Justine Boutboul, vous voulez réagir? Je vous vois.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est triste, c'est que pas que seulement en France. Hein, moi, je travaille du coup à l'échelle européenne et vous voyez dans les autres pays, notamment dans le secteur de la santé, il y a un nombre de strates avant de faire changer les choses, d'acquérir. Du coup, moi, je suis plus dans le domaine médical, imagerie médicale. Donc, avant d'acquérir une nouvelle machine, de décider des changements profonds au sein d'un service d'imagerie, ça met parfois beaucoup de temps. Je suis d'accord avec vous.
Et donc là, c'est dans votre cas de figure. C'est plutôt les patients qui en payent le prix. Là, c'est les électeurs, c'est les citoyens. Mais comme mes patients, électeurs, citoyens, c'est la même personne qui malheureusement souffre de cet immobilisme technocratique et administratif, de cette lourdeur qui fait que du coup, on est obligé d'attendre 10 ans, 5 ans pour ne serait-ce d'avoir un bus supplémentaire.
Voilà. Ce que vous dites là, ça fait des décennies qu'on en parle hein, et pour le moment, rien ne change. Donc voilà, on va vous élire président de la République, Marielle.
J'ai pas cette prétention-là, j'ai au moins cette ambition collective de faire avancer certaines choses. Ouais. Et si je peux faire avancer la cause, en tout cas le fait de donner la possibilité à ces citoyens de se sentir citoyens et de participer au débat, parce que c'est aussi important. C'est aussi important que les citoyens se disent, on peut apporter quelque chose. Et surtout, moi je voudrais dire à tous ces habitants-là, on est à Enghien, une ville assez bien lotie du Val d'Oise. Mais assez dynamique et je suis très contente d'être ici et merci encore pour l'invitation. Mais le territoire du Val d'Oise est très disparate et il faut dire à tous ces habitants qu'ils font des choses formidables pour les territoires et pour la République. Il faut aussi les mettre en lumière, il faut arrêter de les stigmatiser, il faut arrêter de les sous-estimer et peut-être que la solution vient d'eux. Peut-être qu'il faut changer aussi le paradigme et de dire que la solution vient peut-être de la base et des territoires plutôt qu'elle vient d'en haut.
Oui. En tout cas, bravo, hein, bravo pour cette belle association et on vous souhaite que ça marche. Enfin, ça a l'air de bien fonctionner.
Bien parti pour. Et je suis contente d'avoir la confiance au moins des acteurs.
Oui,
c'est important d'avoir la confiance pour construire quelque chose. Il faut avoir la confiance.
Vous vouliez nous dire aussi, vous vouliez pas aborder les projets du 95, enfin du Val d'Oise au niveau départemental. Donc, je vous en laisse dire quelques mots. C'est vrai que c'est un département qui bouge beaucoup.
Et ouais, je voudrais remercier parce que du coup, la députée Zilka Park a malheureusement perdu l'élection. Je félicite le candidat de la NUPES qui a gagné sur cette circonscription, mais elle a quand même été assez à la manœuvre avec Pierre Cuffy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie.
Que nous connaissons bien ici à la radio.
Mais aussi Jean-François Bénaud, qui est le président du CEVO 95, comité d'expansion du Val d'Oise, qui est une antenne du département.
Également très très présent, sur le Val d'Oise.
Et donc du coup, c'est important parce que moi j'étais quand la décision du projet d'abandon d'Europa City a été décidée par le gouvernement, et donc du coup par le président de la République Emmanuel Macron, tous les habitants du Val d'Oise, en tout cas de cette partie valdoisienne, s'est senti un petit peu lésé, abandonné, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et je voudrais vraiment féliciter, parce que bon, je l'ai fait publiquement sur les réseaux sociaux, mais vous me donnez l'opportunité de le faire. Et je voudrais féliciter Pierre Cuchely qui a mis tout de suite vraiment une réunion Val d'Oise 2027. Pourtant, c'est qu'un président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il n'a pas de légitimité politique, ni démocratique, ni institutionnelle, mais il s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour ce département. Parce que le département, avant c'était la Seine-Saint-Denis, maintenant c'est le Val d'Oise, c'est le département le plus jeune de France.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On sait très bien que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est l'avenir de tous les pays. Il faut la traiter, il faut lui donner tous les moyens d'accéder aux responsabilités et d'accéder aux fonctions, quelles qu'elles soient. Et donc, du coup, ce département, il a pas mal de potentiel, mais il a été délaissé. Je suis d'accord que le projet Europa City est une aberration écologique et environnementale. Il faut répondre à cette problématique, mais il faut aussi répondre à la problématique de l'emploi, de l'attractivité économique, de l'attractivité sociale et culturelle. Donc à un moment donné, quand on a ces deux équilibres à réajuster, c'est compliqué. C'est compliqué pour les élus, mais Pierre Cuchely a trouvé une idée qui me semble assez intéressante, c'est le projet Agoralim. Mmh. Donc c'est l'extension du marché de Rungis pour en faire vraiment un marché de Rungis valdoisien, mais qui couvrirait le nord de la France et le nord de l'île de France, et donc du coup le Val d'Oise. C'est important, c'est un projet qui est fondamental, d'autant plus que le Val d'Oise a été délaissé du Grand Paris. Sauf Beson, qui a été récupéré manu militari. Bravo peut-être à Nesrine Menawara, qui est la maire de la ville.
Qui doit venir bientôt dans l'émission.
Peut-être elle a peut-être été tellement à la bataille qu'elle a réussi à sauver sa ville. Peut-être éventuellement à intégrer le Val d'Oise dans le Grand Paris, mais quoi qu'il en soit, en termes d'infrastructure, et notamment d'infrastructure de transport, encore une fois, on est aux abonnés absents. Je suis attachée parlementaire, mais élue et usagée du RERA à la branche de Cergy. Elle est très compliquée, cette branche-là. Donc voilà, il faudra qu'on trouve des solutions sur comment permettre à ces habitants de ce secteur-là d'aller tranquillement et sereinement au travail, de ne pas avoir la boule au ventre, d'arriver tard au travail, mais surtout de ne pas arriver tard pour aller chercher ses enfants à l'école, à la crèche, de ne pas avoir l'épée de Damoclès de l'heure, parce que c'est aussi ça qui fait du stress à nos concitoyens, à nos concitoyennes, et c'est aussi ça qui crée des pathologies psychiatriques, psychologiques, qui crée du burn-out. Je le sais, parce que moi j'ai eu un burn-out à cause du RERA et pas à cause du travail. Quand j'étais DRH à l'école vétérinaire, quand je faisais Cergy Créteil tous les jours, donc c'était quelque chose de monstrueux, mais je l'ai fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le Val d'Oise est aussi important, et l'agglomération de Cergy-Pontoise dans laquelle je suis implantée a tout aussi un rôle moteur à jouer pour le Val d'Oise, parce que c'est la ville, enfin, en tout cas c'est l'agglomération où il y a la préfecture, où il y a tout le fief administratif. Mais encore une fois, je suis contente que certaines villes de ce territoire aient été labellisées pour les JE 2024, donc ça peut éventuellement donner des impulsions sociales, que toutes les énergies citoyennes puissent éventuellement se créer autour de ce bel événement qu'on va attendre prochainement, et on espère que ça va créer vraiment des synergies partout sur tout le territoire valdoisien pour justement s'accaparer les JO à défaut de s'accaparer le Grand Paris. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Mariem Bouslam. Je crois qu'il faut que vous reveniez parce que vous avez beaucoup de choses à dire.
En effet.
Mais il faut que je donne la parole à mes autres invités. Le projet Agoralim pour lequel nous avons reçu, j'ai eu la chance de pouvoir réunir Stéphane Layani, Pierre Cuchely et Daniel Fargeau qui en ont parlé pendant toute une émission.
Ah oui, Daniel Fargeau, bravo à lui aussi.
Voilà, merci beaucoup pour votre engagement, pour votre tenue et votre énergie. Et puis, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour les jours à venir.
Merci à vous.
On marque une nouvelle pause. À tout de suite. Noise, manhandling toys. That's the girls on the block with the nasty curls, wearing pants. Merci d'être resté à l'antenne. C'est bien l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Et je suis toujours en compagnie de Mariem Bouslam, attachée parlementaire d'Aurélien Taché, députée de la 10e circonscription et présidente de l'association Tous Ensemble. Justine Boutboul, responsable de produits cardiologie interventionnelle chez GE Healthcare, l'un des leaders mondiaux, de la fabrication d'équipements d'imagerie médicale, et Yoni Dayan, fondateur et PDG de Simplicicar, spécialisé dans l'intermédiation automobile. Donc à présent, focus sur vous, Justine Boutboul. Je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs.
Oui, tout à fait. Merci, Jacqueline. Donc je m'appelle Justine Boutboul et je m'occupe donc de la commercialisation de nos produits de cardiologie interventionnelle à l'échelle européenne. Et donc General Electric, nous on est implanté en France, la société globalement, et le GE Healthcare a son centre de recherche et de développement basé dans les Yvelines, à Buc, juste à côté de Versailles.
Oui. Alors peut-être dire que GE Healthcare, c'est plus de 100 ans d'expérience dans le secteur de la santé, environ 47 000 employés dans le monde. La société est au centre d'un écosystème qui travaille pour une médecine de précision et est présent en France depuis 1987 avec 2800 collaborateurs.
Tout à fait. En fait, en 1987, donc General Electric a racheté la CGR, qui était la Compagnie Générale de Radiologie, et a voulu maintenir le savoir-faire depuis 1987. En France, notamment, on va retrouver à Buc la fabrication de tous nos tubes à rayons X pour la livraison à l'échelle mondiale, tous nos systèmes d'angiographie, nos mammographes, nos stations de revue d'images qui sont présentes dans beaucoup d'hôpitaux, en tout cas en France et dans le monde.
Alors vous, Dustine Boutboul, vous êtes ingénieur de l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Et donc vous êtes en charge de cette cardiologie interventionnelle. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la cardiologie interventionnelle?
Tout à fait. En fait, ça montre que peu de gens connaissent en fait le monde de l'interventionnel. En fait, il s'agit de traitements qui sont minimalement invasifs pour traiter donc des pathologies cardiovasculaires. C'est quoi des traitements minimalement invasifs? C'est des traitements qui s'opposent à des traitements un peu plus lourds comme des traitements chirurgicaux où on va avoir besoin donc d'ouvrir le patient pour traiter les pathologies. Si on résume ce qui se passe dans le monde de la cardiologie aujourd'hui et en tout cas les pathologies que nos machines permettent de traiter, on a en gros trois pans dans la cardiologie interventionnelle. Le premier, c'est donc le traitement, ce qu'on appelle l'hémodynamique, c'est-à-dire le traitement des maladies coronariennes. Les coronaires, par rappel, hein, c'est les artères qui vont irriguer le cœur en sang et permettre donc aux muscles de fonctionner. Il y a tout ce qui est les traitements valvulaires, donc le remplacement des valves cardiaques. Et enfin, le traitement de rythmologie, c'est-à-dire tout ce qui va s'intéresser au traitement donc du rythme cardiaque et aux anomalies électriques du cœur.
Et donc vous avez il y avait un vrai besoin dans ce domaine pour améliorer la fonction des médecins et le rôle des patients.
Tout à fait. En fait, le monde de la médecine s'inspire un peu du monde économique autour. On parle depuis très longtemps d'intelligence artificielle, on parle de robotisation, et bien toutes ces thématiques en fait s'appliquent non seulement donc au monde dans lequel on vit avec nos smartphones, mais également aujourd'hui à travers la médecine. Nos machines, aujourd'hui, elles intègrent des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les médecins à prendre des décisions, pour leur permettre d'irradier le moins possible les patients, et également sont compatibles avec des technologies très récentes de robotisation pour faire en sorte que les traitements soient plus reproductibles pour les patients et avec des meilleurs résultats au long terme.
Donc une réflexion commune, collégiale, je pense, qui a donné lieu à un nouveau système qui s'appelle ALIA.
Absolument.
A2LIA.
Tout à fait, ALIA. Et en fait, donc ce mot ALIA vient de alliance, en fait.
Oui.
Et on a voulu créer donc avec ALIA un allié du médecin, un assistant du médecin qui va l'aider en fait à réaliser ces procédures. Alors si je reviens un petit peu sur le monde interventionnel, l'idée donc de ces procédures, c'est de traiter donc les pathologies cardiaques par voie minimalement invasive. Donc au lieu d'ouvrir le patient, on va insérer ce qu'on appelle donc un cathéter à l'intérieur d'une artère pour rejoindre l'organe en question, donc le cœur ici, et traiter le patient. Et pendant toute cette procédure en fait, où le médecin donc va avoir besoin de rayons X pour voir son cathéter et ses devices donc aller à l'intérieur donc du patient, la machine va en même temps, en temps réel en fait, régler la dose, régler les paramètres de l'image, permettre au médecin de plus facilement prendre une décision quant à oui ou non, faut-il traiter le patient ou pas, et toutes ces choses-là, en fait, ALIA aujourd'hui les intègre
complètement
dans sa version, tout à fait.
Concrètement, déjà, les pathologies dont vous nous parlez, vous pouvez mettre des noms précis, parce que pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que c'est infarctus?
Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, il y a beaucoup de pathologies. Donc, si on parle de traitement donc des pathologies coronariennes, on parle de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire qu'en fait, nos artères coronariennes vont avoir une privation en fait d'alimentation en sang, parce qu'elles vont être ce qu'on appelle sténosées, donc il va y avoir une réduction du diamètre de ces coronaires, et notre cœur va être moins bien irrigué, donc il va fonctionner moins bien. Et donc la pathologie très connue, hein, c'est effectivement l'infarctus du myocarde. Et ces pathologies aujourd'hui, alors toutes les pathologies cardiovasculaires, ça représente à peu près 140 000 morts par an, et si on se tient juste aux cardiopathies ischémiques, c'est environ une centaine de morts par jour.
C'est 10 morts par jour pour
les accidents de voiture, et là on est à beaucoup plus.
Oui.
Donc il y a vraiment un enjeu très important pour nos hôpitaux, nos cliniques, de pouvoir traiter les patients très rapidement lorsqu'ils arrivent, et de pouvoir reconnaître évidemment les symptômes de l'infarctus du myocarde.
Alors, pour mettre au point ce système ALIA, vous avez un partenaire précieux, hein, qui est le CHU de Brest.
Absolument.
Avec lequel vous avez sans doute, vous étiez déjà en relation pour d'autres innovations.
Tout à fait. Alors, c'est une très très longue histoire en fait avec le CHU de Brest, parce que donc en cardiologie interventionnelle, on a travaillé de très longue date avec le professeur Martin Gillard, qui vient tout juste de rentrer d'ailleurs à l'Académie de médecine cette année, et donc depuis plusieurs années, depuis même dizaines d'années, on travaille avec elle sur l'implantation l'implantation donc, de nos systèmes et surtout sur des études cliniques qui vont avec et qui permettent de montrer l'avantage et sur le patient de l'utilisation de tels systèmes. Alors le gros focus qu'on a mis avec le CHU de Brest, ça a été la dose. Donc oui. Comment est-ce qu'on peut traiter les patients en utilisant le moins de doses possible, hein, comme ces appareils en fait ils permettent de voir à travers le patient et de guider donc tous ces outils à l'intérieur de son corps, ils limitent de la dose en rayon X et nous on s'intéresse à la réduire le plus possible tout en garantissant évidemment une précision diagnostique nécessaire à l'utilisation de ces machines. Et avec Martine Gillard, donc on a travaillé depuis maintenant plus de 10 ans à faire des études cliniques, créer des nouveaux produits, créer des nouveaux solutions logicielles qui permettent de monitorer par exemple la dose en temps réel donnée aux patients et de la limiter au plus possible.
Alors oui, j'ai noté que donc le CHU de Brest était un des seuls centres à se pencher en profondeur sur cette fameuse dose d'irradiation. Est-ce parce que chaque CHU a sa spécialité, sa spécificité ou pas forcément?
Alors en fait, il se trouve qu'à Brest, c'est la spécialité au niveau français. Le docteur Romain Didier donc, a pris en charge, qui travaille donc avec le professeur Virginie Gillard, a pris en charge donc l'école de dose au niveau France pour tous les cardiologues interventionnels pour enseigner comment minimiser la dose et comment mieux traiter les patients sur ce sujet-là. Et en fait, c'est un sujet que, au fond, peu de médecins... De plus en plus prennent conscience, mais peu de médecins font attention, puisque évidemment quand vous avez un patient qui arrive, qui a un infarctus devant vous,
il faut agir
très vite. Et la chose la plus importante, au fond, c'est de déboucher l'artère de ce patient et de le traiter au plus rapidement. Et c'est là que vient Alia, en fait. C'est l'assistant du médecin qui va, lui, de son côté, gérer la dose optimale, gérer la meilleure qualité d'image, pour que le médecin n'ait pas à se poser la question. Ben voilà, est-ce que là, je suis pas en train de mettre en jeu d'autres fonctionnalités du patient en mettant trop de doses.
Et l'intérêt aussi, j'ai pu lire que ce sont des remplacements de valves cardiaques, par exemple, sans avoir à ouvrir chirurgicalement les patients et ainsi ne laisser aucune trace.
Absolument. Alors en fait, donc là, on vient sur le deuxième pan donc de la cardiologie interventionnelle, qui est les pathologies structurelles cardiaques. Mm-hmm. Donc dans notre corps, on a 4 valves qui vont s'ouvrir et se fermer, qui vont permettre au sang de circuler au sein des cavités cardiaques et ensuite de rejoindre donc l'aorte et les différents organes de l'organisme. Et donc ces valves peuvent être malades et la valve la plus connue pour être malade, la plus traitée en ce moment, c'est la valve aortique. Et aujourd'hui, on est capable en fait de remplacer cette valve. Donc on dit qu'elle est sténosée, hein, que du coup elle fait mal son travail, elle permet pas d'éjecter le sang dans l'organisme de manière optimale. Eh bien, on est capable aujourd'hui de remplacer cette valve en passant donc par l'artère fémorale. Donc c'est une artère qui est au niveau du pli de l'aine. On remonte à travers l'aorte et on va déployer cette valve pour remplacer la valve malade. Et on n'a plus besoin d'ouvrir le patient.
D'accord.
Alors, c'est-à-dire que les patients qui avant...
Parce qu'avant, il fallait carrément ouvrir au niveau du cœur.
Alors, tout à fait. Alors, c'est toujours le cas. Il y a toujours l'option chirurgicale qui existe. Mais il y a des patients, en fait, qui ne sont pas éligibles à la chirurgie.
Ah oui.
Tout à fait.
Oui.
Et des patients âgés qui ont des comorbidités, on sait très bien que si on leur donne la voie chirurgicale, ils ne survivront peut-être pas à l'opération. Et aujourd'hui, donc, avec ces opérations qu'on appelle transcathétères, parce que du coup, on n'ouvre pas, on passe à travers donc, une artère et un cathéter, on est capable, du coup, de changer la valve sans avoir besoin d'ouvrir et avec des résultats tout à fait comparables avec ce qui se fait en chirurgie et le patient est sur pied 2-3 jours après peut rentrer chez lui tandis que la chirurgie évidemment il faut qu'il se remette et elle passe plusieurs semaines à l'hôpital.
Et même par rapport aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec les hôpitaux, le fait d'être en ambulatoire, c'est un plus pour...
Évidemment on diminue donc la durée de séjour des patients à l'hôpital, le coût pour la société et évidemment on peut traiter beaucoup plus de patients parce que je vous dis que les files d'attente pour ce genre de traitement elles sont très importantes au CHU de Brest évidemment parce qu'on travaille avec eux mais avec dans tous les CHU de France bien évidemment.
Alors donc j'ai bien noté aussi que cette innovation était unique au monde, hein, installée donc dans ce centre du CHU de Brest.
Absolument.
Et le mot revient souvent, une vraie fierté.
Ah complètement. En fait on a voulu couronner un peu notre partenariat avec le CHU de Brest avec notre toute dernière innovation, donc Alia, ça faisait maintenant quelques années que General Electric n'avait pas fait d'innovation en cardiologie interventionnelle. Et là, on a vraiment envie de revenir sur le secteur et on a décidé de choisir un site français, qui plus est donc en Bretagne, où une bonne partie de nos équipes d'ingénieurs qui ont développé donc ce nouveau produit viennent de Bretagne. Et du coup, on a été vraiment très contents de pouvoir lancer avec Martine Gillard notre nouveau système qui présente beaucoup de nouveautés. Donc, je vous parlais d'intelligence artificielle pour gérer tout ce qui est dose. Également, on s'intéressait aussi à la personnalisation du système. En fait, ces salles de cardiologie interventionnelle sont souvent utilisées par plusieurs médecins différents qui viennent de différents services. Et un des enjeux, en fait, c'est l'adaptabilité de la salle au médecin, qui n'est pas tout le temps à remettre ses préférences, ses paramètres, etc. Et aujourd'hui, on a une salle avec une tablette, comme les fameuses tablettes qu'on utilise nous tous les jours, qui est intégrée donc à notre système et sur laquelle le médecin va pouvoir sélectionner son nom et tous les paramètres de la machine vont automatiquement se charger. Et du coup, les traitements vont être beaucoup plus facilement paramétrés et répétables de médecin en médecin au bénéfice du patient,
c'est
bien
ça,
évidemment.
Oui. D'où le gain de temps dont vous parliez.
Absolument.
Par rapport à...
Et en cardiologie interventionnelle, si on parle par exemple des angioplasties coronariennes, un centre peut faire entre 12 à 15 angiographies coronariennes tous les jours, et du coup de pouvoir permettre à ces centres d'en faire, du coup, de traiter davantage de patients dans un processus donc plus... Lignes, si
oui,
je puis dire.
Oui.
C'est un gros changement pour les hôpitaux.
Donc, on a bien compris une fierté du Made in France.
Absolument.
Dustin Boutboul, je vous propose de faire une très courte pause et puis ensuite on voit l'extension de ces installations à travers la France, enfin dans le monde carrément. À tout de suite. On respire.
Parfait.
Bravo.
Ah.
Ouais. IDFM 98 ou 98.fr, je suis avec Dustin Boutboul, responsable de la cardiologie interventionnelle chez GE Healthcare. Donc, on a bien compris cette fierté Made in France, une première mondiale. Donc, bientôt, c'est en juin que cette plateforme va être installée.
Alors, tout à fait. Donc, en fait, on a plusieurs versions de cette plateforme. La toute première version, donc, a été installée au CHU de Brest, il y a maintenant un mois et demi, à peu près de ça. Et on a essayé de faire beaucoup de retentissement à travers des congrès de cardiologie au niveau européen et au niveau mondial, à travers la presse régionale et la presse nationale également. Et donc, cette plateforme est maintenant installée dans d'autres CHU en France. Et à partir de juin, donc, on commence à installer notamment en Ile-de-France à la clinique Ambroise Paré à Neuilly.
Ah oui, oui, qui est très réputée pour...
Tout à fait. Et qui a refait donc l'intégralité de son plateau de cardiologie interventionnelle avec Alia, justement. Et donc, les premières installations vont commencer maintenant dans deux semaines pour avoir un plateau complètement rénové à partir du mois de septembre. Et on aura l'occasion évidemment d'en reparler dès que ce plateau sera terminé. Ils ont l'ambition d'avoir le plus grand plateau d'Île-de-France pour le traitement des cardiologies interventionnelles.
Très bien, ça va leur faire une belle publicité.
Tout à fait.
Et donc, il est prévu, je note que d'ici la fin de 2023, dans le monde, il est prévu 100 installations.
Tout à fait.
Donc votre ambition à terme, hein, c'est quoi?
C'est une bonne question. Donc comme je vous disais, hein, sur le marché donc de la cardiologie interventionnelle, mondialement parlant, vous avez trois principaux acteurs, hein, donc General Electric Healthcare, vous avez Philips et Siemens Healthcare également. Et ces acteurs, donc nous, dans le domaine de la cardiologie, on essaie de revenir, parce que donc ces dernières années, comme je vous disais, on n'avait pas fait beaucoup d'innovation, et avec Alia, on change complètement la donne. General Electric met un énorme focus sur le domaine de la cardiologie interventionnelle, et on a pour ambition donc là une centaine de systèmes d'ici la fin de l'année, mais l'idée c'est d'en faire beaucoup plus, hein. Le marché de la cardiologie interventionnelle en Europe, c'est surtout la vision que j'ai aujourd'hui, c'est 3 à 4 000 systèmes, donc évidemment l'idée ça, c'est plutôt d'être autour des 500 000 systèmes dans les années à venir.
Alors, une question qui est peut-être pas, je sais pas si elle est confidentielle, vous ne me direz pas, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de cette installation?
Alors, c'est très variable d'hôpital en hôpital, parce que, en fait, quand un hôpital demande à General Electric de construire une salle de cardiologie interventionnelle, il ne demande pas juste un appareil, en fait. Là, c'est tout un écosystème.
Un ensemble,
si vous voulez, c'est quand même le
coopératoire.
Vous allez avoir des cyanétiques, donc des lumières de bloc. Chez le professeur Gillard, il y a eu un robot, par exemple, qui remplace donc le médecin pour pouvoir faire les interventions, en évitant, du coup, d'émettre de la radiation pour le médecin qui opère. Vous pouvez avoir des ordinateurs supplémentaires, etc. Ça, on va dire que ça évolue entre, on va dire, 600 000 euros et pour les salles les plus haut de gamme, 1 million d'euros.
Quelque c'est chose ça, comme ça, oui, c'est pour avoir une fourchette, un ordre de prix.
Tout à fait.
Alors, dernière question, enfin, c'est plus une affirmation qu'une question. Vous vouliez nous parler d'une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, GE a été le premier à introduire quoi ?
Tout à fait. Alors en fait, il y a 20 ans, General Electric, on était les pionniers en cardiologie interventionnelle à introduire le détecteur digital. Alors bon, c'est peut-être pas très clair pour nos auditeurs. En fait, c'est un peu l'équivalent pour l'appareil photo de l'appareil photo numérique.
Enfin,
c'est l'équivalent pour le système de radiologie, ben, du passage au numérique. Parce qu'avant, du coup, on passait sur toute une chaîne analogique avec une qualité d'image qui n'était pas forcément bonne et qui ne permettait pas toujours aux médecins de pouvoir diagnostiquer correctement. Et il y a 20 ans, General Electric était le premier à sortir donc, le capteur digital dans la cardiologie interventionnelle. Et là, ça avait fait un bond énorme puisque, ben, évidemment, tout le monde voulait son capteur digital à l'époque, en 2000. Bon, j'étais à l'école primaire à l'époque, mais du coup, maintenant... On souhaite à travers donc l'intelligence artificielle, à travers la personnalisation du système, revenir sur ce marché à travers donc ces grandes innovations et revenir un des pionniers donc dans le domaine de la cardiologie interventionnelle dans le monde.
Très bien, merci beaucoup Destin Boutboul pour toutes ces précisions.
Merci.
J'avais noté que Arnaud Marie, directeur général de la division interventionnelle de GE Healthcare, a dit également que c'était une grande fierté pour toutes nos équipes d'ingénieurs dont vous faites partie. Merci infiniment pour cette présentation et merci d'avoir choisi DFM 98 pour la primeur de cette toute première mondiale.
Merci pour m'avoir invité.
Voilà, une nouvelle pause pas trop longue et puis je donne la parole à Yoni Dayan dans quelques minutes. À tout de suite. Sarah Luciani, Amour Toujours. C'était une pause courte parce que nous allons enchaîner maintenant avec la suite de notre sommaire. Et donc, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Et ce matin, nous avons abordé le rôle d'une attachée parlementaire, d'une présidente d'association, l'innovation dans le domaine des pathologies cardiovasculaires. Et maintenant, je donne la parole à Yoni Dayan. Donc, merci d'avoir patienté, Yoni.
Merci à vous. C'était assez passionnant ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant.
Donc... Ah bah écoutez, tant mieux. Donc, vous n'êtes pas ennuyé. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs et auditrices. Donc, Yoni, je vous laisse vous présenter également auprès de nos auditeurs et auditrices, Yoni.
Je suis Yoni Dayan, fondateur du réseau Simplicicar. Simplicicar, c'est quoi? Puisque vous me posiez la question il y a quelques minutes. C'est tout simplement un réseau d'agences automobiles sur toute la France. Donc, on a un maillage sur tout le territoire français, mais aussi en Guadeloupe et à La Réunion. Donc, je salue mes franchisés qui m'écoutent et à la Guadeloupe où on ouvre cette semaine notre agence. Donc, le principe, c'est simple, c'est qu'on a facilité et simplifié, d'où notre nom, la transaction de véhicules d'occasion entre particuliers. On les accompagne avec tous les services qu'une concession peut avoir. Et on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de problématiques. La vente de véhicules est quand même assez contraignante pour un particulier. Nous, c'est notre métier. On fait ça tous les jours. Nos franchisés, nos commerciaux sont tous les jours sur le terrain. Donc, sur le principe, un petit peu, on se réfère toujours à l'agence immobilière qui accompagne le particulier pour vendre sa maison. Bah, nous, c'est la même chose. En fait, le particulier vient en agence. On fait une estimation, un audit de son véhicule. On voit déjà s'il est conforme à rentrer dans notre base de données. À partir de là, on le met en vente. On a des photos professionnelles pour mettre en avant, bien évidemment, ce véhicule. On va mettre des annonces professionnelles. On va rajouter des extensions de garantie. On va vérifier si tous les contrôles nécessaires ont été faits. Et à partir de là, on met en vente et on paye notre client que quand le véhicule est vendu. Donc pour lui, c'est une sécurité puisqu'en fait, on va sécuriser la vente.
Oui.
On va d'abord récupérer le paiement puis après lui rétrocéder.
C'est ça. Donc vous aviez, on a noté une forte demande de clients qui n'avaient pas le temps de s'occuper de la vente de leur véhicule ou qui ont été, comme vous l'avez dit, victimes d'arnaques, de SMS et appels frauduleux, d'appels à toute heure. Comment vous est venue l'idée de créer Simplicicar? Vous étiez dans ce domaine déjà?
J'étais dans le commerce, j'ai une famille très commerçante.
Oui.
Et du coup, j'ai eu l'idée il y a plus de 10 ans de ça maintenant, par une vraie contrainte, c'est-à-dire que j'adorais l'automobile, c'était ma passion, mais j'aimais aussi le commerce. Donc j'ai allié les deux et je me suis rendu compte très rapidement que la problématique dans l'automobile, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que si on veut avoir beaucoup de voitures, comme on voit dans les concessions, bah, c'est des milliers d'euros. Et à un moment donné, j'étais sans prétention bon vendeur, donc j'arrivais à bien vendre les véhicules qu'on me confiait, et puis ça commencer par des amis, de la famille, en me disant voilà, vends ma voiture, puisque tu as l'air assez bon dans ce que tu fais, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que vraiment, j'arrivais à la tâche, puisque depuis l'entrée, nettoyage, je nettoyais les véhicules, je les mettais en photo, je les mettais en vente. Et au fil en aiguille, je me suis dit, bah, y a un vrai business à prendre. Et puis, c'est un business qui a été aussi après, derrière, sur Internet, sur le côté numérique, avec tous les sites de vente privée qui ont été montés. C'était le même principe.
Oui, plus ou moins sérieux.
Oui, mais surtout sur la conception, c'est-à-dire qu'on travaillait avec l'argent, entre guillemets, soit des particuliers, eux, avec des stocks qui existaient, mais qui étaient à l'abandon. Et en fait, le principe final, c'était de payer notre client que quand le véhicule était vendu. Donc, ça nous permettait d'avoir beaucoup de voitures pour des milliers d'euros de stocks, mais qui étaient virtuels. Et au final, voilà, d'avoir le même service que si on avait les stocks et que si on les avait achetés.
Oui, c'est la partie numérique qui a complètement modifié ce marché, puisque avant, je pense qu'il y avait des petites annonces à travers des journaux et puis ça se passait relativement bien. Sauf que là, ça a multiplié les sites et sans doute, comme vous le disiez, les arnaques, les appels frauduleux.
Tout à fait, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Avant, quand on achetait un véhicule, c'était beaucoup plus en région, on était régional.
C'est ça.
On n'avait pas ces facilités à prendre un train, à prendre un avion, à voyager dans toute la France. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, par exemple, en Île-de-France, sur 10 véhicules, il y en a 7 qui partent hors Île-de-France. Donc, ça prouve qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de commercialiser à Paris ou en Île-de-France, mais derrière que nos produits partent dans toute la France, parce qu'il y a des facilités aujourd'hui. Les autoroutes sont beaucoup plus accessibles, l'avion, le train. Donc, oui, aujourd'hui, il y a Internet, ça va beaucoup plus vite. On sait très bien, hein, tout va beaucoup plus vite. Donc, on a surfé sur cette vague et on a pris le virage qu'il fallait au moment où il fallait.
C'est ça. Et donc, votre leitmotiv, c'est confiez-nous la vente de votre voiture, on s'occupe de tout. Simplicicar offre à ses clients un service prenant en charge toutes les formalités qui accompagnent la vente d'une voiture. Ça fait gagner du temps et puis profiter sans retenue de votre expertise et de votre savoir-faire.
Tout à fait.
Qui ne fait que qu'augmenter au fil des années.
Oui, oui. Et puis en plus, aujourd'hui, je suis invité quand même à Radio Anguin, donc je vais en parler. On a une agence à Anguin-les-Bains.
Oui.
C'est rue Gaston-Ibrel. On en a une autre aussi dans le Val d'Oise qui est à Ony. Donc voilà, ça a été une volonté aussi ici de nous installer. On est très très présent en Île-de-France, mais aujourd'hui on a développé vraiment ce maillage sur toute la France puisqu'on a 60 points de vente qui ont été signés. On vise 100 agences d'ici 2 ans maximum puisqu'on a une vraie demande aujourd'hui. Aujourd'hui on sait que l'entrepreneuriat est devenu de plus en plus accessible. La franchise, c'est aussi l'idée d'apporter un savoir-faire à des personnes qui ont une passion. Aujourd'hui voilà, nos franchisés sont animés par une passion ou soit par une connaissance du commerce et ils se réfèrent à nous parce que nous on a ce vrai savoir-faire depuis 10 ans. Donc voilà, on accompagne tous nos franchisés, encore une fois à qui je passe un grand bonjour parce qu'ils m'écoutent tous. Et voilà, on est à Marseille, on est à Bordeaux, on est à Toulouse, on est sur Montpellier, voilà, on a vraiment, on est dans le nord, pas très loin, à Arras, dans l'Oise aussi, voilà, on est à Sainte-Maximin, on est à Compiègne, donc on est vraiment un peu partout.
Oui,
on a un maillage national
qui
est intéressant. Et chose aussi, on a beaucoup de femmes, ce qui peut être relativement intéressant pour le monde automobile, mais on a des femmes qui rejoignent le réseau.
Parmi les commerciaux ?
Parmi les franchisés.
Parmi les franchisés. Ah, très
aussi.
Bien.
Donc voilà,
formidable.
On a des femmes qui sautent le pas. Si vous avez pu voir un peu nos couleurs, nos codes couleurs sont le rose et le noir. Donc voilà, aussi un petit clin d'œil aux femmes. Donc vraiment, on a des franchisés de tous bords et j'invite aux candidats qui voudraient ouvrir leur agence à pas hésiter à nous contacter.
Un succès qui est dû aussi à la pénurie de véhicules neufs, qui fait que le secteur est en plein développement puisque vous affichez plus de 35% dans votre entreprise.
Tout à fait. On a eu ce rebond du Covid. Alors, il y a un service aussi qu'on a mis en place qui est Simplicilise. Donc, c'est de la location longue durée. On travaille avec les grands loueurs et on a eu, bien évidemment, cette pénurie de véhicules neufs. Donc, l'avantage chez Simplicicar, c'est qu'on a quand même 3 services sur une enseigne. On a Simplicicar pour l'automobile, Simplicibike qui fait le même principe mais pour les deux roues et Simplicilise pour la location longue durée. Et du fait que la location longue durée est devenue un peu plus compliquée parce que les délais se sont rallongés énormément sur les véhicules neufs. Donc, on a toujours Simplicicar pour location. On avait notre notoriété, les clients nous faisaient confiance, donc on avait déjà du stock, on en a toujours, et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une belle progression en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on a vendu beaucoup plus de voitures. Tous les particuliers se sont remis vers l'occasion, puisqu'il n'y a pas de neuf, l'occasion neuf. Bon, après, il y a eu aussi le côté un petit peu le revers de la médaille, c'est que le prix de l'occasion a augmenté.
Bien
donc,
sûr.
Il y a eu une valorisation un peu plus haute. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, mais dans l'accompagnement, c'est vrai que les particuliers aujourd'hui vendent de plus en plus leurs véhicules et ils ont besoin que ça soit sécurisé. Donc c'est pour ça qu'on est là.
Oui, il y a même un paradoxe. Alors là, je parle de la production de voitures en France qui d'un côté a chuté et pourtant les constructeurs s'en sortent plutôt bien parce qu'ils ont augmenté de plus de 15% en 3 ans les montants des voitures. Donc
oui,
le chiffre n'a pas baissé.
Tout à fait, les prix ont augmenté et oui, il y a une forte augmentation aujourd'hui de commercialisation, mais ce qu'il faut faire attention, c'est les livraisons. Il y a une différence entre vendre des voitures et les livrer. Aujourd'hui, vous avez certains constructeurs qui livrent à un an et demi. Donc c'est vrai que les chiffres sont intéressants pour les ventes, mais est-ce que ça va aller au bout? Est-ce que les contrats ne vont pas être rompus entre-temps? Parce que le client a le droit de dire, mon véhicule était prévu dans un an, mais il a 6 mois encore de retard, j'arrête mon contrat. A contrario, pour l'occasion, on est là, les véhicules sont disponibles tout de suite et le client, sous même 24 heures, peut partir avec sa voiture.
Oui. Et le fait que le Parlement européen se soit prononcé pour la fin des véhicules à moteur thermique dès 2035 et que beaucoup de conducteurs n'approuvent pas cette décision, est-ce que vous pensez que ça va encore accélérer votre croissance?
Alors, non seulement il y a des conducteurs, comme vous dites, qui n'approuvent pas, mais on a aussi des pays, puisque l'Allemagne a mis son veto il y a quelques jours, justement, pour cette réforme. On sait qu'on va aller à l'électrique. La seule problématique aujourd'hui, on va dire, c'est les infrastructures. C'est le seul problème, parce que l'électrique, c'est quand même magique. Il n'y a pas de bruit. Ça ne consomme pas. La consommation est un peu moindre que l'essence. On voit que le prix à la pompe a complètement doublé, augmenté. C'est devenu ahurissant. Il y a des personnes qui peuvent même ne plus utiliser leur voiture faute du prix du carburant. Donc aujourd'hui, oui, bien évidemment, on va vers l'électrique. Mais derrière, justement, on parlait politique un peu tout à l'heure. Mais évidemment, il faut qu'à un moment donné, aider, nos politiques nous aident sur les infrastructures en France qui sont pas assez développées. Et même quand vous trouvez des bornes, bah soit elles sont hors d'usage, soit elles sont pas assez rapides. Nous on a des projets de développement aujourd'hui avec Simplicicar sur l'électrique, puisque voilà, c'est vraiment l'ambition qu'on a de passer quasiment à 50% de vente de l'électrique. Mais pour ça, faut qu'on se donne les moyens, faut que l'État nous donne les moyens. Aujourd'hui, ils ont été très forts pour maluser les véhicules haut de gamme. Aujourd'hui, vous savez que si vous achetez un véhicule de forte cylindrée, vous pouvez aller jusqu'à 40 000 euros de malus, ce qui est ahurissant.
Oui,
aujourd'hui, le marché allemand se porte très très bien parce qu'il n'y a pas de malus. En France, encore une fois, on veut un peu taper sur la tête des consommateurs. Or, nous, ça nous fait beaucoup, beaucoup de mal, parce que c'est vrai que pour tout ce qui est premium et véhicules très haut de gamme, on a beaucoup plus de mal parce qu'il y a beaucoup de malus. Mais aujourd'hui, voilà, on veut faire de l'électrique, mais pour ça, il faut nous donner les moyens, il faut que les infrastructures, il faut que tout simplement le consommateur n'ait pas besoin de s'arrêter tous les 150 ou 200 kilomètres, encore s'il trouve une borne qui fonctionne, pour aller en vacances, parce que c'est ça le principal, c'est aussi qu'on fait des longues routes. L'électrique est intéressant en ville, mais sur les longues routes, c'est l'idée. Mais voilà, les infrastructures ne sont pas faites pour. Nous, on a des projets, même pour les infrastructures. Aujourd'hui, on est en pourparlers avec des grosses sociétés françaises pour importer justement ce procédé-là. On sera peut-être réinvité
pour en parler, parce qu'on c'est la prochaine étape.
Mais l'idée, c'est vraiment de rebondir sur l'électrique. Les voitures sont performantes électriques, mais derrière, voilà, c'est les infrastructures aujourd'hui qui bloquent un petit peu. On a tous envie, bien évidemment, de protéger notre belle planète. On a tous envie de rouler en électrique. Mais à un moment donné, si on ne peut pas charger notre voiture, ça ne sert à rien.
Oui, c'est le paradoxe. Quelques conseils pratiques pour mieux vendre son véhicule, Yoni Dayan?
C'est pas un Simplicicar, non, je peux... Non, mais déjà, évidemment, on est là pour ça, on est là pour accompagner, et puis surtout, on a un service gratuit. Donc oui, je rebondis dessus. Un particulier qui veut vendre sa voiture, faut qu'il aille sur notre site simplicicar.com, qu'il aille voir l'agence la plus proche de chez lui et qu'il fasse une estimation. C'est gratuit, on n'engage en rien, c'est vraiment venir prendre un petit café, comme on dit toujours, et venir discuter. Il y a beaucoup de contraintes, faut faire attention aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux, sur les sites comme Le Bon Coin. Donc vraiment, des fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle, et encore une fois, on est là pour accompagner, on n'est pas là comme une concession traditionnelle pour redescendre au plus bas le prix et faire la meilleure affaire. Non, nous aujourd'hui on n'est pas sur de la marge, on est plutôt sur de la quantité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vendre des volumes de véhicules, et c'est sur ça qu'on va se rémunérer. Mais voilà, on invite tous les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent vendre leur voiture, mais pas que, s'ils veulent tout simplement venir nous voir ou en acheter un, on est là pour eux dans nos 60 points de vente de toute la France.
C'est important ce que vous venez de dire là, que vous n'êtes pas sur la marge, parce que ça veut dire que quand on veut vendre son véhicule, on en retire le prix qu'on en attendait, plus ou moins.
Oui, c'est qu'on est là pour accompagner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est votre question est vraiment importante, c'est qu'en tant que professionnel, on peut vendre pas beaucoup plus cher, mais on peut vendre un peu plus cher avec d'autres services que le client particulier est prêt à payer. C'est-à-dire que pour un véhicule, on va prendre un exemple, à 10 000 euros sur Le Bon Coin, qui est un particulier, le même particulier qui va acheter un véhicule est prêt à payer 11 000 pour passer par un professionnel, parce qu'il a un service, parce qu'on va lui faire sa carte grise, parce que le véhicule va être
une
propre,
assurance,
parce qu'il a, voilà, il a possibilité d'assurer son véhicule, de le financer, puisqu'on fait aussi du financement par du crédit. Et à partir de là, il a quand même des services qui sont plus important que s'il passait par un simple particulier. De ce fait-là, il a tout intérêt de passer par nous, parce qu'il a une vraie sécurité. Demain, il y a un problème sur le véhicule, on va l'accompagner par rapport aux soucis qu'il peut avoir, contrairement au particulier à qui il va acheter un véhicule et puis derrière il peut ne plus avoir de nouvelles. Autre chose, toutes les présentations, les sessions, tout ce qui va se faire du côté administratif va se faire dans un point de vente. On fait pas ça dans la rue.
Oui.
Donc la différence, c'est quand même une sécurité. En hiver, il fait très froid. Bon, là, il fait très beau. Tout va bien à Paris. Mais voilà, on travaille dans un cadre où on reçoit en concession. Il s'installe comme s'il achetait vraiment, alors c'est le cas, son véhicule dans l'une des plus grandes concessions de France. Et il y a un vrai accompagnement. Donc il y a une différence. C'est sûr qu'il y a un coût qui est différent. Mais pour le particulier qui vend, c'est un service qui est complètement gratuit. Et pour le particulier qui achète, il achète sa sérénité.
Quels sont les modes de financement plébiscités actuellement ?
Alors, on entend beaucoup parler de LOA et LLD. Donc la LLD c'est très porté sur les véhicules neufs, donc en ce moment c'est un peu plus compliqué. La LOA qui fonctionne mais qui a un réel intérêt on va dire pour les sociétés, et tout ce qui est profession libérale pour le particulier c'est un peu moins intéressant. Et après on a le crédit classique, le financement classique qui marche très très bien. Donc voilà, on apporte ces trois solutions en fait à un client qui va rentrer dans un Simplicicar. On va de toute façon lui proposer toutes les solutions de financement mais qui sont adaptées à sa situation.
Rappelez-nous l'adresse de l'agence qui est à Enghien.
Juste derrière, à quelques pas, j'ai pu la voir en arrivant, 7 rue Gaston-Israël, donc en face de la gare. Et on en a une autre aussi qui est importante, qui est à Ogny et qui se retrouve, hop, 9 chaussée Jules César, donc 95-520 à Ogny. Donc deux agences ici dans le Val-d'Oise pour vous servir et puis dans toute la France aussi.
Alors, c'est peut-être ma dernière question. Donc vous avez l'intention, vous nous l'avez dit, d'atteindre les 100 agences d'ici 2025 déployées sur toute la France, ou vous avez d'autres ambitions ?
Pour l'instant, c'est la France, parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a des contraintes énormes qui sont administratives dans l'automobile. Et aujourd'hui, on a des demandes. On a des demandes sur l'Italie, sur l'Espagne, sur des pays d'Europe qu'on n'a pas traité, mais qu'on a mis entre guillemets de côté, parce que l'administratif et la législation sont différentes dans toute l'Europe. Donc on va se préparer, on va y aller, mais doucement. Aujourd'hui, on est vraiment sur des ouvertures de qualité et pas de quantité. Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir de fermeture. C'est le cas aujourd'hui. Donc on a un réseau qui est solide, c'est le plus important. Et on veut cette solidité pour nos franchisés et derrière aussi pour nos clients. Donc pour aujourd'hui, l'Europe, c'est pas tout de suite. On s'y penche, on y regarde. Mmh. Mais déjà, on a déjà de quoi faire dans notre belle France en termes de développement. On a aussi la Corse sur laquelle on a des demandes. Donc voilà, il y a encore de quoi faire. À l'Est, on n'est pas encore implanté. On aimerait bien s'installer rapidement dans l'Est, Metz, Nancy, Strasbourg, toutes ces villes-là. Mais voilà, donc on a un maillage qui va se faire lentement, mais sûrement.
Mariam Bouslam.
Et les territoires ultramarins, pas du tout.
C'est-à-dire
les dom-tom.
Les dom-tom, on y est déjà. Alors sur la partie Guadeloupe, ou comme je le disais tout à l'heure, je fais un grand coucou à Alain Paris, mon franchisé sur place, et j'y m'y rends en plus le 10 juillet justement, parce qu'à chaque ouverture, je suis là pour voir un petit peu comment les choses se passent. Donc le 10 juillet, je serai en Guadeloupe pour l'ouverture de cette agence. On est à la Réunion depuis 3 ans, donc je fais aussi un coucou à Fabrice, avec qui ça se passe très très bien. On a des demandes sur la Martinique, on est en train aussi de traiter. Donc on y est pour l'instant. Ça se passe très bien. Alors c'est des marchés qui sont beaucoup plus petits, mais intéressants quand même, parce que voilà, il y a de la demande, et on sait que pour en tous les cas, tout ce qui est parti d'Homtom, ils adorent l'automobile, c'est vraiment une culture, et voilà, on essaye aussi de faire briller l'enseigne Simplicicar dans ces régions-là.
Pas de difficulté pour s'installer selon le type de ville ou de région ?
On n'a pas de difficultés particulières si ce n'est les locaux, mais
Il faut trouver les franchisés d'abord.
Alors les candidats, oui, on a plusieurs vecteurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des sites de référencement comme toute la franchise ou tous les sites qui vont référencer l'enseigne Simplicicar. Aujourd'hui, on ouvre beaucoup d'agences grâce au bouche à oreille, puisqu'aujourd'hui on a une vraie notoriété en France, donc on a le cousin de notre franchisé qui me dit moi j'aimerais aussi me lancer dans ma région. On fait le salon Franchise Expo Paris aussi tous les ans.
Oui, important.
Voilà, on va aussi aller à la rencontre de nos candidats. Et derrière, non, on n'a pas de difficulté, puisqu'aujourd'hui, au final, la plus grosse difficulté, ça va être pouvoir d'installer le candidat où il a envie d'être installé. Et le souci, c'est que quand on a un franchisé, on essaye justement de choyer aujourd'hui nos franchisés existants. On les protège par rapport aux régions. Et c'est pour ça que je dis souvent que pour nous, en tous les cas, sur le projet Simplicicar, on aura maximum entre 150 et 180 agences sur toute la France. On pourrait en ouvrir plus, mais l'idée, c'est de protéger et que toutes nos agences soient pérennes et fonctionnent bien.
Qui n'est pas une concurrence trop, trop vive les uns à côté des autres. Oui. Ça représente quel coût l'installation d'un franchisé ? Une moyenne ? Enfin, une fourchette ?
Alors, en fait, on a l'enveloppe globale est de 80 000 euros au départ, entre 80 et 100 000 euros pour ouvrir son agence. On a un droit d'entrée qui est de 24 000 euros. On a tout l'agencement. On a une formation qui dure quand même 15 jours. Une formation une Simplici Academy qu'on a nommée, et qui est 15 jours au siège social, sur lequel on va aller voir un petit peu tout ce que je vous ai cité, comment on rentre un véhicule, comment on vérifie que le véhicule n'a pas de soucis, toute la partie commerciale, marketing, comptabilité, voilà, toutes ces parties qu'on va voir, service client, e-réputation, des choses qu'on entend de plus en plus avec le numérique et qui sont très importantes, sur lesquelles on travaille tous les jours. À partir du moment où voilà, notre franchisé a fait son académie, il peut ouvrir son agence, et puis après on l'accompagne à l'ouverture, on passe le voir et on lui donne tous les moyens pour qu'il réussisse.
Bravo. Bah, écoutez, si des auditeurs, auditrices nous écoutent et qu'ils veulent soit acheter un véhicule ou une moto d'occasion ou s'installer comme franchisés, que doivent-ils faire?
Ou vendre aussi leur véhicule.
Ou vendre aussi.
Ils vont
oui.
sur le site simplicicar.com. Vous avez plus de 3000 véhicules qui sont disponibles. Alors, tous nos véhicules sont garantis au minimum 12 mois. Donc, c'est important aussi. C'est un gage de sérénité et de sécurité pour le consommateur qui va acheter le véhicule. Vous avez toute l'explication du concept qui vous mènera aussi vers la page franchise pour devenir franchisé, envoyer une candidature et qu'après tout le staff de développement traitera. Et puis derrière, après, ça aboutit quand tout va bien, un rendez-vous et puis à l'ouverture d'une belle agence.
Merci beaucoup Yoni Dayan, fondateur et PDG de Simplicicar, et puis bravo pour la mise en œuvre et réussite de ce concept de vente de voitures et d'achat de voitures et de motos d'occasion. On l'a dit, un concept qui de toute évidence a de beaux jours devant lui. Merci, vous nous tiendrez informés, vos avancées.
J'espère être réinvité pour la centième agence,
venir
avec mon franchisé
avec
de la centième
plaisir.
Agence, venir vous voir et fêter ça ensemble.
Bon ben, ce qu'on vous souhaite, c'est que ce soit avant 2025 alors, pour revenir plus vite. Merci infiniment. Donc on arrive à la fin de l'émission de l'économie en direct, mais avant de vous quitter, de nous quitter, je vais demander un petit mot de conclusion à chacun. Donc Mariam Bouslam, un mot de conclusion.
Bah, je vous remercie pour l'invitation et je remercie, c'est toujours intéressant d'être invité à des émissions radio ou en tout cas à se rendre compte que il n'y a pas que la politique qui fait vivre les citoyens et les territoires, c'est aussi le secteur médical et je félicite cette avancée mondiale et cette parce que ça va aider beaucoup de nos concitoyens dans leur santé, dans leur pathologie, notamment nos aînés à vivre plus longtemps et plus dignement, donc bravo. Et puis bravo parce que je sais que moi je suis aussi fanate de automobile et j'en change souvent et je sais que c'est compliqué, on se fait beaucoup avoir et apporter un cadre sécuritaire et juridique à nos concitoyens pour utiliser leur mode de transport qu'ils utilisent le plus pour se rendre à leur domicile, à leur travail, à leur lieu de vie, à leur lieu de loisir, c'est aussi important et vous faites aussi partie de ces acteurs qui font de la politique autrement que moi j'en fais, mais on fait tous de la politique de manière générale au sens le plus noble, c'est-à-dire qu'on gère la vie des gens et on essaye de les gérer avec responsabilité et avec éthique. Donc bravo à tous ces acteurs qui font vivre la vie. Merci à Radio Hauguin de m'avoir invité. Merci à vous, Jacqueline.
Je vous en prie. Merci Mariam, mais vous reviendrez. Dustin Boutboul, un mot de conclusion.
Tout d'abord, donc merci beaucoup d'avoir invité. Merci de nous donner cette visibilité parce que c'est vrai que le grand public ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans le domaine du médical et surtout dans ces thérapies de cardiologie interventionnelle qui sont quand même assez de pointe. Et merci de nous permettre aussi de nous exprimer à l'échelle de l'Île-de-France et nationale. Et de nous permettre de sortir de notre bureau de temps en temps.
Complètement, mais tant mieux. Mais vous savez que je le dis aussi à Caroline Nouveau à côté de moi que GESCAR sont toujours les bienvenus dans notre émission. Yoni Dayan, un mot de conclusion.
Merci Jacqueline de nous avoir accueillis et puis surtout nous avoir donné, comme il dit si bien, cette chance de pouvoir parler de nos concepts, parler de nos vies, chacun dans son environnement. Quand c'est de la politique, ça reste un concept, je pense. Donc du coup, chacun, que ça soit dans le médical ou pour l'automobile. Et je pense que justement, ce matin, c'était très varié pour les auditeurs. Ça n'a pas été que de la politique ou que du médical. Ça a été assez varié. Donc on vous remercie parce qu'on a des temps de parole qui sont intéressants. Je pense que tous les trois, vous avez pu voir qu'on vit de nos projets.
Complètement.
C'est
ce que j'adore dans l'émission.
C'est nos bébés. C'est nos projets, quels qu'ils soient. Et on veut que ça brille, on veut faire briller la France parce qu'aujourd'hui, on a des vrais talents en France. On a des vraies licornes, on a beaucoup de choses qui sont mises en place et je pense qu'on regarde souvent le côté négatif. Alors, ça fait peut-être un peu partie de la politique, mais il faut regarder aussi le positif et il faut regarder un petit peu le fait que la France brille et qu'elle brille par des bonnes choses. Et on est là pour, en tous les cas, aujourd'hui, en parler.
Merci infiniment, merci pour toutes ces précisions encore, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir passé cette matinée avec nous et nous avoir éclairé sur vos activités. Merci Christophe pour la technique et la musique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Mardi prochain, je vous retrouve, ce sera la dernière émission de la saison. Alors je vous espère nombreux à notre écoute. D'ici là, belle semaine et bon week-end.
France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.